Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour et bienvenue Frédéric Becbédé.
Merci beaucoup de me recevoir à une heure épouvantable.
vous allez vous habituer très rapidement. Vous publiez l'un des livres les plus attendus de ce début d'année qui fait déjà beaucoup parler de lui. D'abord parce qu'il n'a pas de titre sur sa couverture. On y voit sous votre nom ce que j'appelle moi un smiley avec un visage qui rit aux larmes. Alors à l'enfant de pub que vous avez été vous-même, est-ce que c'est aussi une forme d'astuce de marketing ?
C'est plus grave que ça. C'est j'entérine la disparition totale de la langue, du vocabulaire, remplacé par ces images grotesques que nous nous envoyons à longueur de temps. Et cette émoji est le plus envoyé dans le monde, et devant le cœur, devant le baiser. Et ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'on est des malades qui avons besoin de nous forcer à pleurer de rire tout le temps.
Et ça rend compte finalement de ce qu'est l'histoire que vous nous racontez,
oui,
qui est aussi un peu la vôtre.
Oui, l'histoire d'un type qui voudrait rentrer chez lui mais n'y arrive pas.
Alors en réalité, ce livre a bel et bien un titre indispensable, ne serait-ce que pour le référencement chez les libraires, c'est important. L'homme qui pleure de rire, publié chez Grasset, je le rappelle. On va prendre le temps d'en parler avec Bernard Lehu, Frédéric Becbédé. Nous le ferons gagner, dédicacé en fin d'émission, et puis nous jetterons bien sûr un œil sur les programmes télévisés de ce week-end avec Isabelle Morini-Bosque. Bernard, dans L'homme qui pleure de rire, on retrouve Octave Parangot, le double romanesque de l'auteur que l'on avait découvert en publicitaire dans 99 francs. C'était le premier titre. Premier grand succès de Frédéric Becbédé.
Oui, hein. Alors un double, est-ce si sûr, devenu chroniqueur humoristique dans la matinale d'une grande radio, France Publique, Octave Parangot se saborde au cours d'une pathétique tentative d'improvisation après une nouvelle nuit blanche de cet indécrottable noctambule. Or, c'est exactement Frédéric Becbédé ce qui vous est arrivé le 15 novembre 2018 au micro de France Inter, pour ne pas la nommer.
C'était un suicide professionnel.
C'était une démission. Une démission en direct. Mais je trouve que c'est intéressant d'être inefficace au moment où tout le monde l'est.
On va écouter.
Oui. Oui, je sais ce que vous vous dites. Freddy gagne du temps. Freddy n'a rien fait. Freddy s'est couché très tard.
Je n'arrive pas à dire le verbe faire.
Alors, C'est aujourd'hui un peu particulier comme situation parce que j'avais vraiment écrit une chronique super brillante sur les gilets jaunes, mais je l'ai perdue. Hier soir, vers 3h du matin, d'une nouvelle boîte qui s'appelle Medellin.
Bon, voilà, ça dure 3 minutes, hein, comme ça, du même acabit. Un fiasco en direct qui vous a valu d'être aussitôt remercié par votre employeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas toujours tendre avec vos anciens camarades de la radio publique. Votre livre est-il un règlement de compte,
Frédéric? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'aime beaucoup partir de mes aventures personnelles pour ensuite écrire des romans satiriques. Donc j'ai fait la même chose dans 99 francs. J'ai aussi parlé, quand je m'étais fait arrêter devant le baron et placé en garde à vue, c'était le point de départ d'un roman français. J'ai aucune imagination et donc j'utilise ce genre d'anecdotes sans intérêt pour après me galvaniser, m'inspirer et partir dans mes délires.
On exclut définitivement la notion de règlement de compte.
Non, enfin, alors
parce
j'ai
que
quand
vous
même
êtes extrêmement cruel avec dans ce que vous décrivez de vos rapports avec vos anciens camarades de travail, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, la directrice, enfin bref, et toute personne qui par ailleurs ont des vraies vies et un vrai travail. Quoi.
Non, j'ai une révélation à faire. C'est vrai que j'ai été payé par RTL pour écrire ce livre pour nuire à l'image d'une radio concurrente qui est en pleine grève déjà.
Loin de nous, c'est attention. Alors bon, malgré tout, ça n'a pas fait rire tout le monde chez votre ancien employeur. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour de lecture? Vous avez reçu des petits messages?
Beaucoup de messages de gens qui ont beaucoup ri en lisant le livre et qui me demandent de ne pas les citer.
Oui. C'est inquiétant parce que ça veut dire que vous avez eu les rieurs que vous dénoncez de votre côté en l'occurrence.
Oui. Je dénonce.
Je sais que vous en êtes parfaitement conscient.
Mais c'est un gros problème de ce livre, c'est que je prétends dénoncer la tyrannie du rire permanent et obligatoire sur toutes les ondes, pas seulement France Inter, mais aussi chez vous. Et j'ai fait un livre marrant. Alors c'est un gros problème. Je me sens très schizophrène avec cette histoire.
Alors vous dénoncez en particulier ce mélange aujourd'hui permanent de l'information et de l'humour dans les médias. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ?
Ce qui me gêne, c'est qu'à force de mélanger le sérieux et la galéjade, c'est la galéjade qui l'emporte. Et qu'on ne peut pas tellement débattre avec des clowns, des comiques ou des satiristes qui sont en train de détruire tout ce qui fait le socle d'une société démocratique. Et quand on se retrouve, si vous voulez, quand des ministres ou le président de la République, moi je me retrouve en face de lui et je lui demande l'adresse de son dealer, est-ce que c'est bien normal ou pas? Il a très bien répondu d'ailleurs, hein. Il a dit qu'il, de toute façon, il n'avait pas besoin de drogue puisqu'il était tombé dedans quand il était petit. Mais en même temps, cette rencontre permanente entre sérieux et comédie donne le pouvoir à la comédie. Et on le voit dans plusieurs pays où des vrais comiques ont été élus président ou premier ministre.
Et vous allez jusqu'à parler d'une tyrannie, du sarcasme et du ricanement. Est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin? Vous n'exagérez pas le pouvoir de ces comiques?
Quand c'est exceptionnel, le sarcasme, moi j'adore. Mais quand c'est permanent, de 7h du matin à minuit, à la fin je suis un petit peu fatigué, j'ai envie de faire la gueule.
Alors moi je ne pense pas que vous allez trop loin et que vous décrivez une réalité. Et ce que vous décrivez très bien, c'est qu'en fait, on ne peut pas répondre. Non. C'est-à-dire que le comique, d'une certaine façon, a toujours le point final et a toujours raison. Oui. Puisque le ridicule empêche l'argumentation qui pourrait revenir derrière.
Oui, et puis si on répond, on a l'air d'un rabat-joie, d'un vieux ronchon. Et
parfois, d'un vieux réac.
Parfois, même, ça place la personne sérieuse en situation de se justifier, d'expliquer. C'est long à expliquer face à une vanne. En fait, on est démuni.
Ça veut dire que le politiquement correct et la pensée unique sévit aussi au royaume du rire.
C'est un danger, et c'est vrai que je ne voudrais pas que mon livre apparaisse comme une défense du politiquement correct dont j'ai horreur.
Non,
mais en fait, cette permanence de l'ironie, depuis que je suis adulte, j'ai grandi entièrement là-dedans. J'essaie aussi dans ce livre de faire mon auto-analyse, hein, parce que moi je suis obsédé par la déconne. Mais quand on fait que de la déconne pendant 40 ans, finalement, le bilan est pas terrible.
Qu'est-ce qui reste après la déconne, c'est ça?
Bah oui, qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose. Des ruines fumantes, une planète qui se réchauffe, des gens qui manifestent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Et donc, Octave Parango se retrouve sur les Champs-Élysées à slalomer entre les bagnoles en feu. Et il comprend à ce moment-là que son ricanement est coupable.
En tout cas, quand il croise les gilets jaunes, il prend la première rue à gauche du côté de la maison du caviar, ce qui est évidemment moins affaire.
Bien sûr, oui. Mais après, il regrette de ne pas leur avoir proposé une vodka au Rasputin.
Et alors, avec le risque qu'on ne prenne plus rien au sérieux, vous insistez beaucoup là-dessus.
Bien sûr, bien sûr. C'était la grande phrase de ma génération. Faut pas se prendre au sérieux. Mais finalement, oui, c'est très bien de ne pas se prendre au sérieux, mais quand on prend rien au sérieux, ben, comment faire pour être sincère? Comment faire pour être amoureux?
Oui. Mais attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir un vieux con?
Ça fait longtemps. Comme disait Jean d'Ormesson, je suis passé de jeune con à vieux con. C'est normal, c'est le travail du temps.
Alors je disais à quel point il est difficile, en tout cas, de ne pas être d'accord avec vous. Et puis, en même temps, vous l'avez incarné, cette dérision, aussi, parfois.
Oui.
Vous pratiquez, et même au cours de notre entretien, cette ironie, et j'ai envie de vous dire qu'on est heureux de vous voir le faire, sinon on ne passerait pas un bon moment. Est-ce que vous ne crachez pas dans une soupe qui était la vôtre?
Ah mais c'est marrant, parce que c'est mon fond de commerce, ça. J'ai fait ça toute ma vie. Je suis incapable de faire autre chose que de critiquer l'endroit où je suis. J'ai traversé pas mal de métiers, de secteurs professionnels différents, et à chaque fois avec une envie de l'analyser, de décrire ce que je vivais. Et je trouve ça tout à fait sain, au contraire, de cracher dans la soupe. Et ça me paraît le devoir de tout écrivain digne de ce nom, en tout cas de tout satiriste. Et là, la différence, c'est que c'est la satire de la satire. Donc c'est vrai que c'est compliqué, je suis encore plus schizo que d'habitude.
Une mise en abîme.
On vous retrouve après une courte pause, Frédéric Bédé, pour continuer à parler de ce nouveau roman, L'homme qui pleure de rire et qui vient de paraître chez Grasset.
RTL, laissez-vous tenter, 9h10. RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Becbédé qui publie chez Grasset L'homme qui pleure de rire, un titre que vous ne trouverez donc pas sur la couverture du livre, puisque cet homme qui rit aux larmes est représenté par ce qu'on appelle une émoticône. Alors moi, j'ai jamais réussi à me faire
un smiley. Je sais que vous préférez smiley.
Je préfère. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui, Frédéric Becbédé?
Gaspard Proust, Édouard Baer, Jonathan Lambert, Chris Esquer, le garçon qui m'a remplacé le jeudi matin sur France Inter. J'ai un goût très prononcé pour plein d'humoristes. C'est d'ailleurs, on a tous les noms de ceux qu'on aime. Le problème, c'est quand tu en as 123 tous les jours, ça finit par devenir un petit peu trop.
Et qui ne sont pas d'égal talent.
Quelle est la dernière fois où vous avez pleuré de rire, Frédéric Becbédé, là, ces derniers temps?
Quand j'ai vu la couverture de mon livre, je me suis dit, là, quand même, c'est quand même, je suis allé assez loin. Parce que quand on pense que c'est le lecteur qui doit trouver le titre à ma place, je me suis dit que j'étais quand même un sacré tir au flanc. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de pleurer de rire tout le temps. J'ai envie de pleurer de joie. Et j'ai envie d'enlever ce masque de smiley qui est sur mon visage et sur celui de pas mal de monde.
Donc ça n'est pas de même nature, vous venez d'employer un mot très important, c'est la joie. Oui. Généralement, la joie est dans le partage et elle fait vivre, enfin, c'est partager une vibration et un sentiment de bonheur ensemble. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec cet humour que vous décrivez comme cassant tout en permanence et étant finalement dérisoire.
L'esprit français, bien sûr. Voilà, voilà. La saillie hydrolatique du XVIIIe siècle. Voilà. Non, mais il y a deux phénomènes qui m'effraient. D'abord, c'est les têtes de Turcs. Et ça, il y a quand même un phénomène quand il y a beaucoup d'humoristes dans la journée où on entend toujours dire du mal des mêmes personnes. Et je trouve qu'à la fin, ce n'est plus drôle, c'est du lynchage.
Oui, c'est injuste.
On peut détruire des gens comme ça. Et puis, l'autre truc, c'est la disparition du doute. Pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui doute, qui ne sait pas très bien pourquoi il vit, qui cherche un sens, qui regarde la vie avec effarement. Beaucoup d'humoristes ont tendance à ne pas douter et à devenir militants, avec des causes à défendre, un engagement politique et tout. Et là, ça devient tout à fait chiant. À mon avis.
Alors, le pitre n'est quand même jamais loin avec vous. Est-ce que, comme le fait votre double Octave Parangot dans votre roman, vous avez, Frédéric Becbédé, suggéré à Emmanuel Macron lors d'une réception à l'Élysée, je crois que c'était pour la remise de la Légion d'honneur de Michel Houellebecq, votre ami, est-ce que vous avez suggéré au président de légaliser le cannabis pour régler la crise des gilets jaunes?
Bien sûr, parce que ça, je pense que c'est une mesure qui permettrait de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, tout en détendant l'atmosphère dans le pays.
Excusez-moi, c'est un trait d'humour ou c'était quelque chose que vous lui avez dit sérieusement?
Je lui ai dit sérieusement.
J'accepte d'être ridicule en vous posant la question.
Je lui ai dit sérieusement et il m'a répondu que c'est pas à l'ordre du jour parce qu'il pense que le cannabis abîme le cerveau des enfants et je lui ai répondu que les enfants n'avaient plus de cerveau depuis la création de Facebook.
Alors en réalité, Yves, je crois que vous êtes d'accord avec moi, L'homme qui pleure de rire, c'est un roman à double fond. Hein, derrière la satire de certains médias et des humoristes professionnels, il se cache un autre livre, Yves.
Beaucoup plus personnel et dans lequel vous parlez en fait de votre chagrin de vieillir.
Oui. Ben oui, là, tout d'un coup, c'est pas très marrant.
Ah ben voilà, c'est très présent dans le livre.
Mais c'est très présent. Oui.
Octave revient de 10 ans d'exil en Russie. Il arrive à Paris, dans un pays où le président est beaucoup plus jeune que lui, où il comprend plus les codes amoureux, il ne sait plus comment rencontrer quelqu'un, les adresses ont changé, les noms des bars aussi. Il aimerait en fait vivre comme à l'époque de 99 francs, c'est-à-dire se bourrer la gueule, se droguer, baiser tout le temps. Et ces trois choses sont très compliquées, très interdites aujourd'hui.
Quand on vient de l'ancien monde et qu'on ne comprend rien au nouveau, il ne reste plus qu'à passer dans celui d'après. C'est une phrase en fait d'une grande noirceur, tellement éloignée de l'idée de dandy, voire de fêtard que l'on a de vous. En fait, vous avez vieilli, j'ai envie de vous dire tant mieux, non?
Oui, à un moment, Octave imagine son épitaphe. Octave Parangot, mort d'avoir refusé de vieillir. Je crois que il faut l'accepter, je suis de l'ancien monde, moi je suis un écrivain du 20e siècle qui est complètement égaré dans le 21e. Tout ce que j'aime est en train de disparaître, les gens ne vont plus au cinéma, ne lisent plus de magazines en papier, ils mangent plus de viande, tout ce que j'avais comme repère est complètement devenu labyrinthique. Donc, je pense que c'est un livre qui essaye d'avoir un regard mélancolique sur ce qui est en train de disparaître.
La mélancolie, le sentiment dominant. Ouais,
et la nostalgie. Et on a l'impression que votre double, Octave Parangot, ne s'aime pas beaucoup. D'où ces moments où il se saborde, comme cette chronique improvisée à la radio. Et vous, Est-ce que vous avez de l'estime pour vous-même, ou alors tout ça n'est qu'une posture ?
Non, pas tellement. Mais c'est mon carburant en même temps. Je crois que j'écris pour essayer de savoir qui je suis. J'ai une certaine image et je joue avec cette image de noctambule superficielle. Il y a sûrement une part de vrai là-dedans. Et j'essaye de... En fait, je crois que écrire un roman, c'est vraiment imaginer un personnage pour essayer de comprendre qui on est. Et le jour où je trouverai la réponse, je ne pourrai plus écrire.
Je pense que vous venez de nous faire une réponse très sincère. Octave apprend qu'il va être grand-père, et c'est un choc, hein. Mais il l'exprime à sa manière singulière. Ah, mon Dieu, c'est comme si Iggy Pop arrêtait la drogue pour manger du tofu. Vous êtes grand-père.
Ce qu'il a d'ailleurs fait.
Oui, absolument.
Vous dites, c'est ce qui aujourd'hui fait qu'il est toujours vivant par rapport à ses petits camarades.
Oui, c'est vrai. Oui.
Vous n'êtes pas déjà grand-père.
Non, et ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça prouve qu'il y a des aspects de fiction dans ce livre, quand même.
Mais vous êtes un jeune papa.
Oui. J'ai une fille de 4 ans et un garçon d'un an.
Et là aussi, vous en parlez avec des mots très, très tendres. Et...
Oui, parce qu'au fond, Octave passe toute la nuit à essayer de trouver une idée pour sa chronique du lendemain matin. Et puis, à partir de 3-4 heures du matin, tout ce qu'il veut faire, c'est rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses enfants. C'est l'aspect un peu gnangnan de ce roman, qui est assez trash. Je préfère prévenir les personnes âgées. Mais en même temps, c'est un peu comme... J'ai fait un remake de Homer. Vous savez, Ulysse, c'est un type, il a du mal à rentrer chez lui. Mais bon, il finit par y rentrer quand même.
Alors nous vous faisons gagner L'homme qui pleure de rire, dédicacé par Frédéric Becbédé et publié chez Grasset, si vous répondez à la question que vous pose tout de suite Bernard.
Quel est le titre du premier roman dans lequel apparaissait Octave Parongo, le double de Frédéric Becbédé, que l'on retrouve dans L'homme qui pleure de rire? Ne dites rien, Frédéric.
Vous nous appelez au 3210 avant de marquer une nouvelle pause. Une question rapide à propos du livre de Vanessa Springora, Le consentement, dans lequel cette éditrice raconte sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, alors qu'elle avec 14 ans et lui 50, Vanessa Springora explique qu'elle a décidé d'écrire son livre après avoir été meurtrie par le prix attribué à Matzneff en 2013 par le jury Renaudot, dont vous faites partie. Ouais. J'ai envie de vous dire, qu'auriez-vous envie de dire à Vanessa Springora s'il était en face de nous, avec nous en ce moment ?
Que jamais j'aurais pu imaginer l'histoire que j'ai lue dans son livre. Parce que, évidemment, on ne disposait que de la version de Matzneff, à savoir une passion amoureuse incroyable entre un homme et une jeune femme, un peu trop jeune, mais consentante. Et que quand j'ai ouvert Le consentement, j'ai compris que c'était ça le mot important. Quand on a moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement. Même si la jeune femme le supplie d'être avec lui, il fallait résister, il fallait dire non. Et elle décrit cette espèce de dérive, de traumatisme qui a duré des décennies. Et vraiment, j'ai été très très bouleversé. Et on a tous une culpabilité au fond d'avoir décerné ce prix. Pardon, j'ai du mal à articuler.
À tout de suite, Frédéric Becbédé. On va discuter télévision avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL, laissez-vous tenter. 9h19. Johnny Hallyday, la collection vinyle événement. Redécouvrez tous les albums mythiques de Johnny Hallyday avec toute la magie du son vinyle dans une collection exclusive accompagnée d'un fascicule inédit. Dès aujourd'hui, retrouvez le numéro 2, l'album vinyle Derrière l'amour, avec les chansons Gabriel et Requiem pour info chez votre marchand de journaux et sur collectionjohnny.com.
RTL.
Long décret.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
En compagnie de Frédéric Becbédé, notre page télévisée, ça commence avec les audiences de la veille, Isabelle Morini-Bosque, avec Médiamétrie.
Eh bien, ça va être très vite fait. Peur sur le lac et ses mérités rassemblent près de 6 millions de téléspectateurs. En plus, ça se passe à Annecy. En deuxième position, FBI, mais c'est un peu injuste. Ça ne rassemble que 2 500 000 personnes et ça méritait mieux, 11% des téléspectateurs. Alors, si vous voulez le score de l'émission politique sur la 2, vous avez la parole, c'est 1 700 000, mais on l'avait dit hier, c'est MacGyver face à 4 fictions.
Et le comité du tourisme d'Annecy vous remercie une fois de plus. Alors, je sais que vous aimez beaucoup le grand concours. Je sais que vous aimez beaucoup le grand concours des animateurs sur TF1 et que vous allez nous faire jouer en musique ce matin.
Oui, j'ai les moyens de vous faire chanter grâce à 300 cœurs sur la 3. C'est une émission qui marche gentiment dans un univers de divertissement en crise. D'abord parce que le téléspectateur gavé d'images est blasé, c'est injuste. Ensuite parce que tout a déjà quasiment été fait dans ce secteur. Enfin parce que les artistes capables de fédérer un large public sont très peu nombreux, faut bien le dire, etc. etc. Résultat, ce que l'on disait hier pour les fictions est valable aujourd'hui. La nouvelle loi des séries, c'est que les séries font la loi le vendredi également et pas seulement abonnement sur Netflix. Les Petits Meurtres et NCIS font ainsi la course en tête, c'est logique. Et demain, jour où les jeunes sont de sortie, c'est le polar de la 3 qui marche le mieux. La senior que je suis vous le confirme. Cette fois-ci, c'est Magellan face à un Boyerland qui ne fonctionne pas. C'est normal, c'est préfabriqué. Et vous savez quoi? Ce qui a le mieux marché côté divertissement en 2019, c'est ça.
Quand tu me voudrais bien, quand tu te loges pas.
Vous pensez que c'est le génie?
Non, c'est l'imitateur.
Non,
oh, bah oui, on va pas commencer.
C'est quelqu'un qui a la même voix que Johnny. C'est Jean-Baptiste Guégan, que moi j'aime beaucoup, qui a été révélé dans le divertissement 2019, qui pour moi est le meilleur. C'est la France, un incroyable talent. Jean-Baptiste Guégan remplit aujourd'hui les Zéniths, je le comprends. Et on le retrouve donc ce soir sur la 3, dans ces 300 chœurs qui permettent à une vedette de chanter le tube d'une autre vedette. Soyons clairs, on oblige la vedette à le chanter.
Ah, merci, vous avez été aussi clair que ça.
Alors, on joue un peu. Trouvez l'identité de cette artiste. Petit indice, elle aime les avocats mûrs.
Et moi, voilà, je connais la réponse. Ah oui. C'est Isabelle Boulay. Ah oui.
Que vais-je faire?
Murs et barbus.
Oui.
Murs et barbus.
Maître Dupont-Moretti.
Et j'aime beaucoup Isabelle Boulay. Les deux suivants.
Elle est vegan,
sont...
quoi.
Oui, voilà.
Les deux suivants sont reconnaissables, qui étaient partout à Noël, y compris le 21 décembre sur TF1, dans les 12 coups de Noël, et sur la 2 en même temps dans Boyerland.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Bon, alors finissons-en. Alors, de qui s'agit-il?
Vita et Slimane.
Ah ben voilà.
Le suivant est plus difficile. Indice, l'artiste qui chante du MC Solar a lui aussi un M dans son nom.
Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devais...
L'homme pâle, non?
C'est Black M.
Ah ouais. Ah.
Et on continue avec cet interprète qui chante du Sardou dans le texte.
Je vais t'aimer.
Sèche, on sèche.
Oui, je suis contente que j'ai pris un extrait où elle chante pas de sa façon habituelle, c'est Amel Bent. Et le suivant n'est pas si facile que ça, il met l'accent sur un de mes tubes préférés, j'avais pas remarqué qu'il avait un accent.
Je revois la ville en fête et en délire.
Kenji.
C'est Claudio Capeo.
Voilà, tout le monde croit que c'est Kenji et effectivement, il a un accent que j'avais jamais remarqué. Moi, j'aime beaucoup Capeo.
Voilà. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent.
Et c'est son anniversaire aujourd'hui.
À qui?
À Claudio Capeo.
Ah bah vous êtes au courant de tout.
Non, mais de tout.
Voilà. Et alors, le suivant, je vous dis tout de suite qui c'est parce que vous ne trouverez pas et moi, j'aurais pas trouvé non plus. C'est les Arcadiens. Je les aime bien.
Avec toi, aïe, je ferai n'importe quoi.
Michel Delpech.
Bah
oui.
Chaudassin et Michel Delpech, on ne touche pas. Hein.
Ouais,
non.
Et on termine, d'ailleurs c'était des textes remarquablement bien écrits, quoi qu'on en dise.
Bien sûr, bah bien sûr.
Et on termine par cette jeune fille qui a gagné The Voice en 2018, si c'est pas aidé ça.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude.
C'est Loane?
Non, c'est Maëlle.
Bravo Yves.
Mais vous savez que je regarde moi The Voice.
C'est Maëlle, effectivement. Qui est devenue une très 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 jolie jeune femme, soit dit, c'est la portraitiste qui parle.
Non mais elle le fut toujours.
Donc c'est une émission très sympathique, des fois les chœurs chantent un peu fort, mais voilà. Mais je vous confirme qu'on est obligé de les artistes à chanter des tubes qui ne sont pas les leurs. Et dimanche...
Il y a le réalisateur qui me fait comme ça.
Oui, alors dimanche je vous conseille très rapidement un capital fort instructif qui tente de répondre sur M6 à la question « Nos élus vivent-ils au-dessus de nos moyens ?» C'est un titre que j'aime beaucoup et l'émission est plutôt très réussie. Oh.
Question, on a le temps encore.
Oui, alors c'est marrant parce que vous qui êtes un homme de médias,
oui.
C'est marrant que vous n'ayez jamais songé ou à écrire pour la télévision ou à adapter un de vos romans pour la télévision.
C'est pas faux comme question.
Oui, oui, c'est vrai. Je suis passé directement au grand écran, mais ça devient de plus en plus compliqué pour le cinéma de trouver des financements. Et donc, peut-être, pourquoi pas, je vais
vous avez matière à série, à mon avis, oui. Frédéric Becbédé.
J'ai commencé par écrire un épisode de Navarro, puis on verra.
Allez, dans un instant, vous saurez si vous avez gagné le livre de Frédéric Becbédé qui sort aux éditions Grasset. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Quel est le titre de votre premier roman dans lequel apparaissait Octave Parangaud, votre double Frédéric Becbédé? C'est la question que nous posions aux auditeurs d'RTL et vous allez leur répondre maintenant.
99 francs.
99 francs. Donc nous nous adressons aussi aux Belges et aux Suisses. 99 francs si vous préférez. Vous avez gagné le livre dédicacé. Ce sera fait dans quelques instants de Frédéric Becbédé qui paraît aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venu passer ce moment.
Merci.
Avec nous. On était heureux de vous accueillir.
L'horaire est un peu compliqué, mais bon, je suis couché.
On est très bien tiré.
Je vais me recoucher.
Ah bah c'est très bien. Il a entièrement raison. L'horaire est aussi un peu compliqué pour monsieur Calvi, mon cher Frédéric, parce qu'il a, il a du mal avec la pendule. Mais c'est vrai, c'est un problème à
non
ce
mais vous manquez
là.
Pas de toupet. Il est 9h30 et 15 secondes.
Eh ben oui, justement, vous avez un problème avec l'horaire et je suis bien content qu'un invité le fasse remarquer à tout le monde.
Mais vous êtes d'une mauvaise foi.
Bon, merci, bon week-end.
Oui. Dites-nous juste, appâtez-nous un peu.
Quand on en arrive à dire « je, oui » dans une matinale info qui est censée être la première d'Europe, c'est que ça devient très compliqué.
Bon, bah écoutez, je vais rester là.
Je, non.
Il y a quoi dans votre menu ? C'était ça ma question.
Il y a tout entrée, plat et dessert, vous allez voir. Là, aujourd'hui, c'est vendredi, on va se lâcher un petit peu. Non, il y a plein de choses intéressantes.
On vous écoute avec plaisir.
Bon week-end.
Bonne journée, salut.
Alexandra a été victime d'une belle arnaque. La locataire de sa maison lui fait un chèque de banque.
Et alors, la locataire lui a fait croire qu'elle s'est trompée. Elle lui a dit, j'ai fait un chèque de banque de 20 000 euros alors que je vous dois que 4 000 euros. Alors, c'est pas grave, gardez les 20 000 et renvoyez-moi 16 000. Elle a renvoyé les 16 000. Eh bien, le chèque de banque était faux.
La banque ne voulait rien rembourser. Elle est passée dans le 9h30-11h sur RTL et la banque a fini par la rembourser.
C'est une très bonne nouvelle. Merci à tous encore une fois pour votre professionnalisme. Money, money.
Et en ce vendredi 10 janvier, nous sommes en direct ce matin des cas inédits et pour les régler, que la force soit avec nous. Nous aurons un duplex dans une seconde pour aider Anime qui vit avec sa famille dans un appartement infesté de rongeurs. Il y a d'abord eu des rats et depuis quelques mois les souris ont pris le pouvoir. Une des filles s'est fait mordre par une souris, a été hospitalisée. Son autre fille a fait une réaction allergique. Le bailleur a posé certes quelques pièges mais ne semble pas prendre conscience de l'urgence de la situation. C'est pour ça qu'Hervé Pouchol est d'ailleurs en duplex. Alors il nous décrira l'endroit un petit peu plus tard. Ça va Hervé ?
Bah écoutez, je peux vous le décrire tout de suite. Je suis dans un champ. Je suis dans un champ, ben oui, à côté du bailleur, mais c'est un champ. C'est la première fois que je fais un duplex dans un champ, et je peux vous assurer qu'il fait froid. Alors, hein.
Par contre, changez la colle du bridge, parce que quand vous dites un champ, c'est très compliqué. On va réécouter tout à l'heure. Je pensais à un moment donné que vous alliez nous faire « Moi, ce que j'aime, c'est les animaux !» Mais pas du tout. Bon, en tout cas, vous êtes dans un champ. Dans quelques instants, vous interviendrez en fait Pouchol. Et je rappelle qu'effectivement, non mais c'est vrai, pour les dents, et ça, beaucoup le savent, et je le sais aussi, il faut changer la colle régulièrement, sinon le pivot commence à tomber un peu. Bon, ça démarre très fort, nous sommes vendredi, nous sommes en direct. Je le rappelle, c'est Guy également qui nous dira que lui n'est pas dans un champ, mais bien une maison où il s'est lancé dans l'isolation des combles de sa maison et il trouvait cela intéressant dans la mesure où un fournisseur d'énergie devait le financer à hauteur de 847 euros. Et Céline vous expliquera que tout a été fait dans les règles, mais le grand fournisseur d'énergie ne le paie pas. Pour régler tous ces problèmes, votre avocate préférée, la maître Fellono, bonjour.
Bonjour à tous.
Bernard Sabat est parmi nous.
Bonjour à tous.
Hervé Pouchol, vous l'avez entendu en duplex. Céline, JB, Charlotte, toutes les équipes d'Alain Hazard, une réalisation de Xavier Kassovitch. En direct en ce vendredi 10 janvier, je vous souhaite une belle journée. Nous allons tout faire pour vous aider. À n'importe quel moment, vous le savez, vous pouvez intervenir dans l'émission.
Si t'as croisé un arnaqueur, c'est pas la peine de flipper. De 9h30 à 11h, appelle Julien Courbet.
Et il vous suffit pour cela, Charlotte, de faire le 30-10.
50 centimes d'euros la minute.
Ou Facebook, la page, ça peut vous arriver.
Julien Courbet.
Opération duplex qui démarre avec le cas de Anime qui est en ligne avec moi. Bonjour Anime.
Bonjour.
Alors Anime, soyez la bienvenue. Je sais qu'Anime, ouais, vous êtes un petit peu tendue parce que vous êtes inquiète pour ce qui arrive à vos enfants. Alors racontez-nous un petit peu dans cet appartement, qu'est-ce qu'on y voit, depuis quand sont arrivés ces rongeurs et comment ça se passe au quotidien s'il vous plaît.
Eh bien écoutez, moi ça fait à peu près 2 ans que je suis dans cet appartement. Et nous avons 15 jours pour signaler les anomalies de l'appartement une fois qu'on a emménagé dans l'appartement. Donc dans ces anomalies-là, j'ai signalé la présence de rats, plusieurs autres insectes également, les poissons d'argent, les cafards et tous les autres petits insectes qu'il y a dans les appartements.
Il y a quelques photos sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, où l'on voit évidemment tous les paquets de nourriture qui sont éventrés par les rats. Mais vous les voyez vraiment les rats ou vous doutez qu'ils sont
on
là
les voit, on les voit vraiment face à face. ils peuvent nous regarder comme ça et hop, ils s'échappent.
Et c'est des gros ?
C'est des gros, le plus gros que j'ai fait et que j'ai vu fait au moins 20 cm.
Oh !
Avec une longue queue de à peu près 5 à 10 cm.
D'accord, donc vous prévenez immédiatement. Il y a des souris également ?
Il y a des souris également. Il y a des petits mulots qui ressortent entre les lattes du parquet des chambres. Et donc les rats sortent plus souvent de la cuisine ou de la salle de bain.
Mais Anime, j'essaie de toujours trouver du positif. Est-ce que cet appartement ne pourrait pas être transformé en parc animalier où vous pourriez faire payer les gens parce que c'est assez rare. Certaines personnes passent leur vie sans voir de rats et là on pourrait les voir.
Ça
les
me ferait
souris.
Gagner de l'argent, pourquoi pas.
Bon,
oui.
Anime, est-ce que c'est le cas chez les voisins?
C'est le cas chez les voisins également, ma voisine du premier étage, mes voisins du deuxième étage également. Mais bon, il n'y a que mes voisines du premier étage et puis moi qui sommes gênés apparemment parce que les autres voisins ne disent rien. Effectivement, il y en a deux autres qui vivent avec des chats, donc ça les permet de chasser les souris, et les mulots et les rats. Mais par contre, nous, on n'a pas d'animaux à la maison, donc on se ramasse tout, quoi.
Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'un soir de Noël, je crois, votre fille s'est fait mordre.
Non, alors...